seraient roulées ou pas. Et puis elles sont retournées dire aux disciples que le tombeau était vide et que quelqu'un leur avait dit qu'il était ressuscité, qu'il était en Galilée, qu'il les attendait. Aujourd'hui, c'est une autre facette de la même réalité qu'on voit. On voit Marie-Madeleine, il n'y a plus qu'une femme, mais pas n'importe laquelle, qui est d'une certaine façon, du coup, l'apôtre des apôtres, la première qui va transmettre la résurrection, qui va voir les apôtres et qui, du coup, vont voir ce qu'il se passe. Il y a ce disciple que Jésus aimait, qui représente chacun d'entre nous, et Pierre. Pierre, c'est l'institution, c'est le premier pape. Vous avez remarqué que le disciple que Jésus aimait court plus vite. Quand on se sent aimé et qu'on aime, on court plus vite. Il me semble, on a plus soif de connaître l'autre, de connaître celui qu'on aime. Ils arrivent au tombeau. Pierre entre, qu'est-ce qu'il voit ? Rien. Jean entre, qu'est-ce qu'il voit ? Rien. Et pourtant, on a cette phrase dans l'Écriture, « Il vit et il crut ». Donc, il voit rien et il croit. Comme quoi, il n'y a pas besoin de voir pour croire. Et même, peut-être que c'est l'inverse, peut-être faut-il ne pas voir pour croire. Comme si la vision nous empêchait d'avoir accès à une vérité plus profonde. Qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau ? Il y a des linges qui sont pliés. L'écrivain biblique aurait pu complètement les oublier, les linges. Mais ils ont leur petite importance. Parce que pour un juif, on ne manipule pas un mort. Sinon, on devient impur soi-même. Donc si les linges sont pliés, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très important. Personne n'a pu manipuler le mort sans se rendre impur. C'est donc que le mort s'est manipulé tout seul, d'une certaine façon. Ou que quelque chose de supérieur à l'impureté a manipulé les linges, vous voyez. Peut-être que c'est ça qu'il y a dans la tête du disciple que Jésus aime. En tous les cas, il accepte que Jésus soit ressuscité. Il accepte, il croit en la résurrection. Quand il dit, quand on lit dans l'Écriture qu'il croit, ça ne veut pas dire qu'il est sûr, ça ne veut pas dire qu'il est certain. Croire, ce n'est pas être certain en premier. Croire, c'est d'abord accepter et ensuite être certain. C'est comme ça qu'on vit dans l'existence. On croit. On accepte d'aimer une personne et ensuite on éprouve pendant toute la vie qu'on est certain que c'est bien cette personne qu'on veut aimer. Et du coup, pour la première fois, la résurrection prend toute son importance. Et on pourrait même dire avec saint Paul que si le disciple que Jésus aimait n'avait pas cru dans la résurrection, si les apôtres n'avaient pas cru dans la résurrection, notre foi serait vaine. Celui qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, celui qui ne croit pas qu'après la mort nous ressusciterons, celui-là ne peut pas se dire chrétien. C'est important comme vérité. Vous voyez, on ne peut pas dire « Moi, je suis chrétien et je crois en la réincarnation. » On ne peut pas dire « Je suis chrétien, mais pour ce qui concerne la résurrection, ça, c'est une option que je ne prends pas. » Soit vous êtes chrétien et vous croyez en la résurrection, soit vous ne croyez pas en la résurrection, dans ces cas-là, vous n'êtes pas chrétien. En tous les cas, vous ne vivez pas comme un chrétien, parce qu'on peut être baptisé et ne pas vivre comme un chrétien. Mais ça, c'est autre chose. Quelle serait la vie du coup, de celui qui ne croit pas dans la résurrection. C'est quoi une vie de quelqu'un qui ne croit pas dans la résurrection du Christ ? Ben, c'est la vie de quelqu'un qui est dans un train, qui a pris le train un jour, c'est pas trop comment, probablement autour du jour de sa naissance. Tout d'un coup, il se retrouve dans le train de la vie. Et puis on franchit les étapes, on franchit les gares. Il y a des compagnons de route, alors on a le droit de se balader dans le train, on a le droit d'aller au salon bar, on a le droit... Il n'y a pas de contrôleur, entre parenthèses, mais bon. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Et on continue, on vit, et à un certain moment, qu'on ne connaît pas, on aurait bien envie de maîtriser ça. De même qu'on a bien envie de maîtriser le départ. Mais sans la résurrection, sans l'idée de Dieu, on ne sait pas comment les choses ont commencé. On ne sait pas qu'on a été voulu par Dieu. On ne sait pas qu'on est aimé par Dieu, on se retrouve dans le train. Et puis au bout d'un moment, on va mourir. Et là encore, on aimerait bien maîtriser le truc. D'ailleurs, on essaye de le maîtriser de plus en plus. On essaye de faire des lois pour maîtriser, vous voyez. On essaye de vouloir... mettre la main sur quelque chose qui nous dépasse, en fait. Mais quand on ne croit pas dans la résurrection de Jésus, il nous reste plus que la matérialité du voyage, vous voyez. La seule chose qu'on peut faire si on ne croit pas dans la résurrection, si on ne croit pas qu'après, il y a une vie, et que cette vie va durer l'éternité et qu'on va être comblé, et que finalement, si on est dans le train, c'est simplement pour apprendre à aimer. Ben, si on ne croit pas à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, dans le train, on va aller, comme on le fait souvent, au maximum au salon bar. On va se distraire, on va aller au salon bar. On va aller voir les copains, on va aller voir les copines. Les copains, les copines, les copines. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de combler le vide, forcément. Il faut en profiter un maximum, on ne sait pas combien de temps ça va durer, peut-être qu'on va être débarqué à la prochaine gare. On ne sait pas. Si vous vivez sans la résurrection, vous ne savez pas. Et c'est super angoissant, en fait. C'est ce qu'on appelle le nihilisme. C'est le vide. On ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va. Et c'est grave, chers frères et sœurs, parce que ça nous entraîne à un comportement qui blesse profondément notre humanité. Est-ce que vous avez déjà été dans un zoo où vous voyez un magnifique lion en cage ? Vous voyez le lion, vous voyez la cage, et il y a un truc que vous vous dites, c'est le lion est très très beau, mais il est en cage. Et le lion, il n'est pas fait pour être en cage. Alors dans les zoos modernes, on s'arrange pour que on ait l'impression que le lion ne nous voit pas. Alors, je ne sais pas si vous allez au zoo de Vincennes, vous allez voir ça, c'est étonnant. Tout est caché. Alors, vous pouvez aller au zoo sans voir le lion. C'est le principe. Les tyrans, qui ont leur importance, vivent précisément dans ce train du nihilisme. Et qu'est-ce qu'ils font, les tyrans ? Et je ne pense pas forcément à notre Russe chauve, là. Mais il y en a des tas d'autres, des tyrans, des gens qui se comportent comme des tyrans et qui vont forcer, vous voyez, qui vont bloquer, qui vont nous bloquer dans un coin du train. Et alors on va croire qu'on ne va pas en sortir. Et eux, les tyrans, ils pensent que c'est la fin des haricots. Et du coup, ils ont tous les droits, puisqu'ils sont dans un espace restreint et qu'ils peuvent tuer. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, ils croient qu'ils peuvent même tuer spirituellement. C'est faux, bien sûr. Contre ça, contre le tyran qui veut garder le contrôle et qui a toujours l'impression de gagner, il y a la résurrection. Et non, toi, tu vas mourir. Toi, le tyran, tu vas mourir. Et ça pourrait arriver vite. Et si tu ne choisis pas la résurrection, tu vas mourir pour l'éternité. Alors que moi, tu peux me tuer, tu peux me blesser, mais puisque je crois en la résurrection, je ne mourrai pas. tu ne pourras pas m'attraper. Et voyez, chers frères et sœurs, si nous vivions nos relations sociales, nos relations dans le travail, nos relations politiques, avec cette idée de la résurrection, avec cette idée que constamment le ressuscité peut nous conseiller, peut nous parler, peut nous aider, matériellement même, alors notre vie serait différente. On n'aurait absolument pas peur des tyrans. On n'aurait absolument pas peur des systèmes angoissants. On passerait à travers la mort qu'ils propagent, puisque nous sommes des ressuscités en puissance. Puisque notre mort a été engloutie dans la mort du Christ, je suis extrêmement libre. C'est pas que j'ai pas peur de mourir, c'est que ma mort, tout ce qui est fini en moi, tout ce qui est pauvre en moi, tout ce qui est blessé en moi, est plongé dans le sang du Christ. Ça fait pas de moi un être supérieur, mais ça fait de moi un être libre. Et ça fait de moi un être puissant de la puissance de Dieu. Je peux oser des choses, je peux risquer des choses. Et aucun tyran ne peut m'empêcher de parler. C'est extrêmement libérant, la résurrection. On n'est pas confiné dans un train. On vit en permanence en dehors du train. La mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, montre que l'amour et la miséricorde ont gagné sur toutes les formes de puissance. L'amour a percuté la puissance et la mort et l'a englouti. Et les puissants et la mort veulent nous faire croire qu'ils ont gagné, en fait ils ont perdu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils nous font peur. Ils essayent de faire peur. Alors c'est pour ça, chers frères et sœurs, qu'il faut nous imbiber de la résurrection. Il faut sans cesse renouveler cette profession de foi. Je crois en la résurrection. Est-ce que c'est la dernière chose qu'on peut retenir? Je crois qu'il y a encore une petite chose, si vous le permettez, à mettre dans nos cœurs résolument. C'est que, puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus a traversé la mort, puisque Jésus a traversé la souffrance, puisque Jésus a traversé toutes les formes de blessures humaines, du coup, toutes nos blessures sont baignées dans l'amour. Du coup, Jésus nous prend, nous sommes pris, nous pouvons être pris dans ce qu'on appelle la miséricorde, le pardon, la tendresse divine. Chacun d'entre nous, aucun n'est oublié. Nous sommes pris. Vous voyez, maintenant, dès maintenant, le ressuscité qui, d'au-delà de la mort, vient dans notre vie, dans la vie concrète que nous traversons aujourd'hui, vient dans le train, et dans le train, il nous montre toute l'amplitude, tout le sens de notre existence. Tu vaux bien plus que ce que ce tyran voit de toi. Tu vaux bien plus que les caricatures qu'on fait de toi. Tu es un être pour l'éternité. Tu es un homme pour l'éternité. On disait ça de Thomas More, vous savez, chancelier de Grande-Bretagne qui a résisté à Henri VIII. Un homme pour l'éternité. Ben oui, il est libre. Il peut s'opposer au roi. Enfin, au roi, quand il se trompe, en même temps, il est son ami et en même temps, il s'oppose. Il est libre. Et, chers frères et sœurs, vous êtes chacun absolument libre. Et ne vous laissez pas voler cette liberté. Ne vous laissez pas voler cet amour qu'il y a au fond de votre cœur et qui est éternel. L'amour en vous est parfait. Ne croyez pas que l'amour qui est en vous soit imparfait. Vous ne pouvez pas, avec la résurrection, échapper à la miséricorde divine. Toujours le ressuscité viendra vous chercher. Toujours le ressuscité vous proposera de vivre. Et c'est ça le jugement dernier. Au fond, qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? Et je vais terminer maintenant. Quand on va mourir, on va voir Jésus. Et Jésus va nous dire, mais est-ce que tu veux vivre pour l'éternité? Et à ce moment-là, comme on aura essayé d'aimer dans notre vie, comme on aura essayé de vivre de la résurrection pendant notre vie, évidemment, on se jettera dans ses bras et on dira, oui Seigneur, je le veux. Et notre péché sera dissous. Dissous, chers frères et sœurs. La mort sera dissous. Il n'y aura plus de mort. Et même, la mort finira par être une bonne nouvelle, puisque la mort ne devient qu'une porte. La mort n'est plus qu'une porte. Avec la résurrection, la mort est une porte. Il suffit de la traverser. Au bon moment, ce n'est pas à nous de décider. C'est le Seigneur qui nous y prépare pour que nous puissions vraiment profiter de toute l'amplitude de la résurrection. Nous avons besoin de vivre jusqu'au bout, un bout que nous ne connaissons pas. Mais un bout vers lequel le Seigneur accompagne chacun d'entre nous. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre jour après jour à vivre avec le ressuscité. Et ne le cherchons pas dans les tombeaux, ne le cherchons pas parmi les morts, parce qu'il est vivant, il est avec vous tous les jours, dans la rue, au travail, à la maison, toujours le ressuscité, il est là, invisible, mais là. Que la Sainte Vierge vraiment nous aide à vivre avec son Fils. Amen.